Wi-Fi, 7h30 à Dakar et en temps universel, 8h30 à Cotonou.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal de Vincent Dublange.
Et à la une, Andréane, comment retourner en campagne quand on vient à peine de quitter le pouvoir? Comment le faire, qu'il plus est, depuis l'étranger? RFI se penche dans cette édition sur la coalition Takou-Walou au Sénégal et sa tête de liste Macky Sall. Décryptage dans un instant. On vous parle aussi du Bénin où un groupe de travail de l'ONU qualifie d'arbitraire la détention de l'opposant Joël Aïvo et demande à Cotonou sa libération. Et puis, on évoque l'arrestation à Abidjan de l'influenceur Apoutchou National. On va tout vous expliquer. Le journal des sports dans 10 minutes et la confiance affichée du Bénin et du Faso qui jouent aujourd'hui respectivement contre le Nigeria et le Sénégal. Ce sont les qualifs de la CAN de foot. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs officiellement qualifiée, le Togo officiellement éliminé. Et d'abord donc le Sénégal. C'est l'une des particularités de cette campagne pour les législatives anticipées. L'élection c'est dimanche, la campagne se termine demain. L'ex-président Macky Sall a choisi de revenir dans le jeu politique à la tête de l'une des principales coalitions d'opposition, Takou-Walou. Mais l'ancien chef d'État fait campagne à distance depuis Marrakech, Léa-Lisa Westerhoff.
Nous sommes tout le temps en contact par téléphone, affirme Abdoumbo, l'un des cadres du parti de Macky Sall. Même son de cloche chez le coordinateur de la campagne de Takou-Walou, Sédou Gueye, qui parle d'une présence digitale et vocale importante de l'ex-président qui, depuis le Maroc, lui parle plusieurs fois par jour et participe à toutes les réunions. Pour ses fidèles, l'absence de la tête de liste nationale ne porte donc pas préjudice à leur coalition. La stratégie a été adaptée, avec dans chaque département la tête de liste locale qui fait campagne sur le terrain, le choix aussi de faire du porte-à-porte plutôt que des grands rassemblements, enfin de s'associer dans presque tous les départements du pays avec la coalition de l'opposition Sam Sakadou, emmenée par le maire de Dakar, une intercoalition qui doit servir à récolter plus de voix de l'opposition. Reste à savoir pourquoi Macky Sall a choisi de ne pas revenir au Sénégal battre campagne, l'ex-président ne s'en est pas expliqué. Pour le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek Dion, un retour aussitôt du président sortant n'a pas été envisagé, car il risquait, je cite, de créer des tensions, alors que le Sénégal sort d'une période très difficile en matière de violation des droits et des libertés. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Mobilisation hier dans plusieurs endroits du Mozambique pour cette nouvelle séquence de contestation des résultats des élections générales à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. Dans le nord du Mozambique, à Nampula, il y a eu au moins 6 morts dans la répression. Dans la capitale Maputo, c'était plutôt calme. Il y avait un gros déploiement sécuritaire.
Cotonou, 90 FM.
Au Bénin, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire affirme que l'universitaire Joël Aïvo se trouve dans ce cas, dans le cas d'une détention arbitraire. Le document en question date d'août dernier, mais on vient juste d'en avoir connaissance. Joël Aïvo, pour rappel, a été arrêté peu après la réélection de Patrice Talon en 2021. Cette voix critique a été condamnée ensuite à 10 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Au cours du procès, ses avocats dénonçaient un dossier vide, Magali Lagrange.
La privation de liberté de Joël Aïvo est arbitraire, selon les experts onusiens. Ils estiment que la détention du constitutionnaliste et opposant béninois est dépourvue de base légale, qu'il est ciblé pour ses opinions politiques et que son droit à un procès équitable a été violé. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande donc au gouvernement béninois de le libérer immédiatement et souligne qu'il a le droit d'obtenir réparation. Les autorités du Bénin ont été contactées par courrier pour répondre aux allégations de la source des experts, précise le document, source qui évoque notamment des conditions de détention inhumaines dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Joël Aïvo et des visites familiales limitées à quelques minutes à la vue de tous. Le gouvernement béninois n'a pas répondu dans les délais impartis. Il y a 2 ans, le groupe onusien avait déjà jugé arbitraire la détention de l'opposante Rekia Madougou, arrêtée en mars 2021, quelques semaines avant la présidentielle au Bénin et condamnée par la CRIET à 20 ans de prison pour complicité d'actes terroristes.
L'arrestation au Bénin hier de l'ancien directeur général de la police, le général Philippe Ondegnon, interpellé à son domicile à Calavi, en périphérie de Cotonou. Les autorités policières, judiciaires n'ont encore rien dit sur les circonstances et les raisons de son arrestation. Le général Ondegnon est depuis plusieurs mois une voix critique du président Talon. L'actualité judiciaire, c'est aussi au Mali l'interpellation d'Issa Kaoundjim, placé hier sous mandat de dépôt. Il devrait être jugé le 12 février prochain pour des propos tenus dans une émission de télé. Il moquait les allégations récentes de tentatives de déstabilisation des autorités de transition du Burkina Faso voisin. C'est Ouagadougou qui a saisi l'autorité des médias du Mali. L'affaire a donc atterri sur le bureau de la justice malienne. Le directeur de la chaîne malienne Djoliba TV et le journaliste qui animait l'émission en cause sont quant à eux convoqués cet après-midi par la haute autorité de la communication du Mali pour une séance d'écoute. Article complet à lire sur l'appli RFI ou sur notre site internet rfi.fr. Un mécanicien, son apprenti, un transporteur, des éleveurs, 7 personnes en tout sont décédées dimanche. Au Mali, ils ont été tués selon de multiples témoignages que nous avons recueillis par les paramilitaires ex-Wagner et par l'armée malienne. Ils intervenaient dimanche dernier dans la région de Tombouctou, pas très loin de la frontière avec la Mauritanie. Pas de réaction officielle à Bamako, mais une source sécuritaire confirme la mort de 6 civils qualifiés par cette source, je cite, de suspects. Le Mali et ce compromis en vue apparemment, en tout cas entre l'État et le PDG britannique de la compagnie minière australienne Resolute. Depuis vendredi, il est avec deux de ses collaborateurs détenus à la brigade du pôle économique de Bamako. Au centre de l'affaire, Serge Daniel, un litige financier avec les autorités maliennes.
Le président directeur général de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, et ses deux collaborateurs, tous de nationalité britannique, étaient à deux doigts d'être mis sous mandat de dépôt. Leur société a finalement accepté un compromis avec les autorités maliennes. D'après nos informations, ce mercredi, un protocole d'accord était en cours de finalisation pour signature. De sources proches du dossier, selon ce protocole, le Mali recevra rapidement un premier chèque et dans un délai raisonnable un second. Mais c'est après signature du document et un premier versement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que ces cadres de la société minière vont recouvrer la liberté. Accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics, depuis quasiment une semaine, ils sont dans les locaux d'une unité d'enquête de Bamako. Les autorités maliennes leur reprochent notamment des pratiques commerciales non orthodoxes. La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale. Propriétaire de la mine d'or de Siama située dans le sud-ouest du Mali, les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Autre litige autour de l'activité minière, on est en Guinée, où l'une des plus importantes mines de bauxite est au cœur d'un différend entre la société propriétaire, qui est une société émirienne, et les autorités guinéennes. Ces dernières ont ordonné, il y a un mois, l'arrêt des exportations de la bauxite. Et depuis la fin de semaine dernière, c'est carrément le transport interne du minerai depuis la mine de Boké jusqu'au port de Kamsar qui est gelé. Alexis Bédu du service éco nous explique.
Un ordre du gouvernement donné à la compagnie des bauxites de Guinée, la GAC, Guinea Alumina Corporation, et sa maison mère EGAC aux Émirats Arabes Unis, qui exploitent la mine de Boké, dénoncent des violations des obligations de la compagnie nationale sans justification aucune, précise le minier. Ce qui se joue autour de cette affaire, c'est que les autorités guinéennes mettent la pression sur les Émirats Arabes Unis, glisse un connaisseur du dossier. Elles reprochent à EGA de traîner les pieds sur la construction de la raffinerie d'alumine sur le territoire guinéen, une condition qui était pourtant inscrite dans l'accord signé lors du rachat de la mine par EGA. Le gouvernement souhaite encourager les miniers à transformer sur place. Or, aujourd'hui, EGA exporte le minerai brut jusqu'à sa raffinerie d'Al-Tawila aux Émirats Arabes Unis. Environ 3000 personnes travaillent sur le site de Boké pour une production l'année dernière de 48 millions de tonnes de bauxite. Tout le monde a intérêt à un règlement du différend, nous dit un expert du secteur minier guinéen. Le gouvernement ne peut pas se permettre un plan social et l'entreprise minière, elle, doit continuer de produire.
RFI, il est 7h39, quasiment, à Lomé comme à Conakry. Le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix au Togo, lance un appel à l'Union africaine, un appel à définir une démarche commune suite à la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Que fait l'Afrique pendant que l'Union européenne ou d'autres acteurs internationaux préparent leur stratégie ? S'interroge ainsi le mouvement. Pour le président de MLK Togo, Pasteur Edo Komi, le continent semble demeurer en marge de ce bouleversement global.
Depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, nous voyons qu'au niveau de l'Europe et autres, il y a des activités qui se font, il y a des initiatives qui se prennent. Les États-Unis reste demain la première puissance économique du monde. Et donc, il y a lieu quand même que les pays africains adoptent une position commune face à cette victoire. Si on ne le fait pas, chaque pays ira de manière unitaire, de manière isolée, et c'est l'esprit de chacun pour soi. Comme l'Union européenne qui va vouloir prendre ses destins en main, l'Afrique aussi doit savoir prendre ses destins en main. Et donc, nous, c'est un appel qu'on lance à l'Union africaine de se réunir pour une fois décider de manière commune leur position face à la victoire de Donald Trump. On ne peut pas être une entité comme l'Union africaine et ne pas avoir la même position sur un sujet donné. Pourquoi on a créé l'Union africaine? Vous voyez que c'est dommage pour nous. Cette Union africaine-là, beaucoup d'Africains n'y croient plus, pas du tout.
L'Afrique qui doit parler d'une seule voix également à la COP climat qui se poursuit, les dernières prises de parole hier des chefs de l'État et aujourd'hui le début des négociations serrées hein, sur le fond et notamment sur l'argent sonnant et trébuchant qu'attendent les pays en développement. À ce sujet, et depuis Bakou, le FMI annonce que la Côte d'Ivoire va créer un fonds de financement vert de 500 millions de dollars pour accélérer les projets de croissance durable. La Côte d'Ivoire, où 3 personnes ont été interpellées, une enquête est en cours pour blanchiment d'argent. Binta Diagne, tout est parti d'une vidéo polémique postée sur les réseaux sociaux par un artiste influenceur bien connu à Abidjan, vous nous racontez.
La scène est tournée dans une petite pièce. Assis sur une chaise de bureau, Stéphane Agbré, alias Apuchou National, exhibe des liasses de billets de banque dans un sac. Impossible d'en estimer la valeur, mais il y a là une importante somme d'argent. La vidéo postée sur les réseaux sociaux fait le buzz. Au-delà des internautes, elle attire l'attention de la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques, ainsi que du pôle pénal économique et financier. Au cours de son audition auprès de la police économique, l'artiste explique que ses fonds lui ont été prêtés par un bookmaker qui était sur le point d'acheter une voiture. De fil en aiguille, les 2 autres personnes mentionnées dans cette audition sont également convoquées. Dans un communiqué, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de ces fonds. Il faut saluer la promptitude du procureur, se félicite un expert des questions de gouvernance qui appelle toutefois au renforcement des contrôles concernant les transactions en espèces déjà réglementées par une loi. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Un mot de la République démocratique du Congo. Le festival Amani à Goma, dans l'Est, est annulé. L'événement devait célébrer ses 10 ans dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Black M, Ferregola étaient notamment attendus sur scène, mais la mairie de Goma et l'organisation n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On y reviendra largement dans Afrique Midi, midi 30, temps universel. Pour l'heure, il est 7h42 en temps universel. Andréane Mellard, c'est à vous.
Et c'était le journal de Vincent Dublange.